Vous savez, voilà comment ça se passe. Je n'ai plus le temps de lire systématiquement, et je dirais pour rien, puisque nous parlions du pour rien tout à l'heure. Alors, je
là,
lis...
c'est apprendre à lire.
Apprendre à lire. Ah, apprendre à lire, ça, c'est une autre question. Naturellement, en lisant, comme en marchant. Mais ce que je veux dire, c'est que je lis, au fond, par rapport à mon travail. Quand je fais un travail, alors à ce moment-là, j'ai besoin de certaines lectures, et là, je lis bien. Et j'apprends à lire, si vous voulez, à ce moment-là.
Parce qu'on pourrait penser qu'il y a peut-être un peu de vanité dans certaines phrases, ou alors vous les avez éclairées d'une manière différente, et comme
oui.
le lecteur doit s'engager dans ce que vous écrivez,
oui, oui.
le lecteur peut se tromper. Car oui. vous dites, le livre que je n'ai pas lu, et qui souvent médit avant même que j'ai le temps de le lire, et qui souvent médit.
Oui.
Donc on peut penser que le livre que vous n'avez pas lu, vous le connaissez quand même.
Eh bien, c'est ce que je disais, je le connais parce qu'on m'en parle. Il y a surtout dans une ville...
Oui, peut-être aussi parce que dans votre tête, le sujet est passé.
Ah non,
déjà...
pas du tout. C'est pas du tout ça que je voulais dire maintenant. Le sens appartient au lecteur. Donc,
oui.
je vous donne quitus pour ce sens, si vous voulez. Mais ce que je voulais dire, c'est que simplement, on m'en parle. Il m'est dit, on m'en parle avant même que je le lise.
Ce que j'ai retenu surtout tout à l'heure, c'est ne pas avoir lu tel livre ou tel livre
oui.
n'est pas une faute exorbitante.
Bien sûr, c'est une faute seulement dans un certain champ, je l'ai dit. Si on veut passer l'agrégation de philosophie, il faut avoir lu Hegel, n'est-ce pas ? Mais autrement, ce n'est pas une faute.
Ou alors, où commence pour un homme, où commence pour une femme, les devoirs de lecture encore, qu'il faudrait se méfier de ce mot, devoir.
Oui, n'est-ce pas ? Le problème, c'est d'accéder à la lecture par la voie, finalement, de la séduction, du plaisir, de la jouissance, etc. Alors, s'il y a un problème social, et je crois qu'il y en a actuellement en France, puisque malheureusement, la France est finalement un pays où on lit peu, statistiquement, n'est-ce pas ? Ce qui est assez triste pour un pays qui a eu tout de même une grande image culturelle autrefois. Alors, s'il y a un problème social, ça n'est pas tellement d'obliger les gens à lire, personne n'y arrivera à cela. C'est de réfléchir, de trouver une manière de les remettre dans une liberté d'accueil au plaisir de lire. C'est ça qui est très difficile. Ce que je dis est un peu creux, mais en réalité, je ne vois pas très bien comment on peut poser le problème à l'échelle sociale. C'est très difficile.
Enfin, il y a là, au plan de la lecture et au plan du langage, une grande inégalité, car dès lors qu'on exclut le langage et l'écriture... Fatalement, on éloigne le corps quand on en arrive à des phrases comme celle-ci et que vous citez « Tu ne parles pas comme moi, donc je t'exclus ».
Oui, exactement. C'est cette division des langages dont je parlais. Alors ça, on peut le vérifier absolument.
Chaque jour
dans la quotidienneté, on s'aperçoit que des langages sont exclus, n'est-ce pas ? Moi, je me suis très souvent senti exclu par mon langage. Même à un moment, taxé de jargon, etc. Je me suis très souvent senti exclu par mon langage.
Il y a ce que vous appelez aussi la mollesse des grands mots.
Oui, la mollesse des grands mots. Oui, on ne se passe pas de grands mots. Ce sont des mots auxquels on met des majuscules, qui deviennent un peu majestueux, mais ce n'est pas tellement qu'ils soient majestueux, c'est qu'ils bouchent un peu les trous de la pensée. Et bon, on n'a pas une pensée irréprochable. Quelquefois, la pensée a des trous, et on met un mot à la place. À qui est-ce que ça n'arrive pas ?
Mais vous travaillez tellement les mots, les phrases, les pensées que vous faites sans aucun doute un mauvais sujet politique.
Ah oui, je crois que je ferai un très mauvais sujet politique. Non pas que ça ne m'intéresse pas, je dirais même qu'en un sens ça me passionne, mais je l'ai écrit d'ailleurs, j'ai effectivement beaucoup de résistance au discours politique, au discours de la politique.
Y a-t-il une vérité dans le discours politique ?
Non, je ne pense pas. Ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut y avoir des exigences et des rigueurs d'analyse. Je crois que, disons, dans le discours politique, il y a le discours politique qui peut avoir de la valeur, c'est le discours qui a une valeur d'analyse, le discours qui analyse. C'est le seul, en tout cas, personnellement, dans lequel j'aimerais pouvoir me reconnaître et dont j'aurais besoin. J'aurais besoin qu'on le tienne pour moi, à ma place. Mais c'est tout.
Les minutes passent très rapide. Je m'aperçois que nous sommes là depuis 55 minutes et je voudrais rester plus longtemps encore. Mais je sais aussi, en vous écoutant, je sais ce que c'est que l'écriture pour vous, c'est de l'ethnologie.
De l'ethnologie, oui. Je prends votre mot au bon.
Explorateur.
Voilà. Explorateur, tout ça sont des images peut-être de nouveau un peu infatuées,
voyez-vous. Les gens voient.
Oui.
Comme on voit une idée.
Mais si vous voulez, ethnologie, moi, ça me paraît bon dans la mesure où l'ethnologue, surtout maintenant, c'est quelqu'un qui part à la recherche non pas du même, non pas de l'identique, mais de l'autre.
De l'autre, oui. Pas.
Alors oui, l'écriture, c'est ça, effectivement.
Il ne doit pas être facile de faire la critique de son œuvre lorsqu'on est critique, comme vous l'êtes Roland Barthes. Mais dans l'œuvre, il doit y avoir quand même des œuvres qui restent. Pour vous.
Oui, oui, oui.
Dans lesquelles?
Alors, oui, c'est une question très intéressante. On ne me la pose jamais. Et disons que je suis attaché fondamentalement à deux livres parmi ceux que j'ai écrits. Ça ne veut pas dire que je les trouve les meilleurs. C'est un attachement personnel et subjectif.
Mais on saura les choisir déjà pour savoir.
Il y a d'abord le petit livre que j'ai écrit sur Michelet. Et ensuite, il y a le livre avec des images que j'ai écrit sur le Japon, l'Empire des signes.
Pourquoi le Japon, justement?
Alors là, le Japon, c'est parce que c'est un espace, j'ose pas dire un pays, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas faire allusion à la structure économique ou politique du Japon.
C'est un espace. Il y a un signe.
Oui, c'est ça. C'est un espace de signes. Et c'est un espace à la fois très sensuel pour moi et très esthétique, qui est une extraordinaire leçon d'élégance dans la sensualité. Et c'est ça qui m'a touché au Japon.